Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver. 10h30, midi et demi, 2h ensemble pour parler de l'actualité de certains sujets que j'ai choisis, certains sujets d'actualité. Nous allons en parler à travers vos témoignages, évidemment, 0826 300 300, mais à travers aussi les témoignages de nos invités qui seront nombreux ce matin encore avec des sujets qui vous font réagir, je le sais. Il y a depuis hier cette fameuse polémique autour des propos de Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, et ceux de Kylian Mbappé. Nous allons y revenir à travers les témoignages de Vincent, de Didier, puis j'ai un petit truc à dire là-dessus. Moi, je n'aime pas trop les donneurs de leçons. Donc, nous allons voir, parce que j'ai lu partout, c'est un scandale, c'est bon. D'accord, la pirouette de Galtier était ratée, et il est mal retombé, ça, on est totalement d'accord. Nous allons revenir sur le sujet, nous allons parler aussi de la réglementation en vigueur pour limiter le gaspillage d'énergie la nuit. Mais oui, tous ces immeubles illuminés la nuit, enfin illuminés, éclairés dans tous les cas, vous avez des bureaux qui sont éclairés la nuit, mais parfois c'est utile, il faut qu'ils soient éclairés, c'est nécessaire, parce qu'on travaille aussi la nuit. Il y a aussi des bâtiments publics qui sont éclairés la nuit, il y a des magasins qui parfois sont éclairés la nuit. On en parle tout à l'heure, parce qu'il y a des économies à faire, c'est ce que nous dit le président de la République, qui veut baisser d'ailleurs le chauffage à 19 degrés cet hiver. D'ailleurs, est-ce que vous allez vous chauffer à 19 degrés cet hiver? Allez-y, vous en parlez, 0826 300 300. Tout à l'heure, entre 11h et midi, nous allons parler des médecines alternatives. Est-ce que vous avez recours aux médecines alternatives? Est-ce que ça vous a fait du bien ou pas? Quels sont les dangers? Les dangers aussi des compléments alimentaires. Grand débat tout à l'heure entre 11h et midi. Et puis, après midi, entre midi et midi et demi, je reviendrai sur ce chiffre qui est donné par un organisme finlandais, indépendant. Depuis l'invasion de l'Ukraine, la Russie a gagné 158 milliards d'euros grâce à ses exportations d'hydrocarbures. 158 milliards d'euros, ça fait réfléchir. Et nous réfléchirons autour de ce chiffre tout à l'heure, entre midi et midi et demi. Mais commençons avec cette polémique qui flambe depuis hier. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Hier donc, conférence de presse avant Paris Saint-Germain-Juventus, le match a lieu ce soir, 21h, vous le savez. Question d'un journaliste d'LCI sur les déplacements en avion privé de l'équipe du Paris Saint-Germain, et notamment sur le dernier déplacement à Nantes samedi. Nantes est à 2h en TGV de Paris. Écoutons la réponse de Christophe Galtier et les rires de Kylian Mbappé.
Une question, j'allais dire, extra-sportive, mais qui est sportive, puisque Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une vidéo de Marco Verratti faisant Paris-Nantes et Nantes-Paris en jet privé. Paris-Nantes est en moins de 2h en TGV Inuit PSG Inside. Je renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez parlé à vos joueurs?
Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà.
Et vous, sur des jets privés, monsieur Mbappé?
Comment?
Sur des jets privés, vous en pensez quoi?
Oh, je pense rien.
Merci.
Voilà, il ne pense rien, Kylian Mbappé, il s'en va, et Christophe Galtier aussi s'en va. C'est la fin de la conférence de presse, et la polémique s'est mise à flamber. Kylian Mbappé s'esclaffe, après la conférence de presse, donc à la fin de la conférence de presse, il dit « moi, je ne pense rien des voyages en jet ». Il faut savoir que le Paris Saint-Germain négocie avec la SNCF depuis des mois pour se déplacer en train. Oui, mais problème, pas de train de nuit pour rentrer après les matchs. Et vous le savez, les équipes professionnelles de football ont besoin de récupération, de récupérer là, en plus, après le match de Nantes, il y a ce match ce soir contre la Juventus. Donc, difficulté pour organiser ces voyages en train. Est-ce que la polémique est une polémique? Certains parlent de moquerie, de condescendance, d'irresponsabilité, de bêtises, de mépris des riches et des célèbres, des footballeurs riches et célèbres qui méprisent les citoyens. Moi, je me méfie un peu des leçons de morale. Hein, c'est un peu trop facile. Je pense que Christophe Galtier a été plus adroit dans certaines déclarations que celles d'hier. Je pense que l'humour de Galtier est un peu tombé à plat. Mais de là à donner de grandes leçons de morale, personnellement, je n'y suis pas, enfin, je ne partage pas. Didier et Vincent sont là. Didier est à Martigues. Bonjour Didier.
Bonjour Monsieur Bourdin.
Comment ça va Didier ?
Ben écoutez, Bourdin et Berkoff sur la même radio, moi j'adhère.
Ah bon ?
Ah oui, complètement.
Et pourquoi, pourquoi est-ce que vous adhérez, Didier ? Alors, racontez-moi.
Ah ben écoutez, pour moi, Sud Radio, c'est devenu les vraies voix, c'est le franc-parler, c'est vous faites parler les auditeurs, voilà, c'est vraiment, on vit vraiment l'instant présent, les opinions sont diverses et variées, il y a plus de mon point de vue, la liberté d'expression est beaucoup plus fiable et authentique que sur Sud Radio, quoi, il n'y a pas photo.
Alors, je peux vous dire que, puisque, bon, à parté. Hein, Didier, à parté entre
oui,
nous, je peux vous dire que ma liberté de parole n'a jamais été freinée, quel que soit l'endroit où je me suis trouvé depuis ces longues années. Didier, j'ai toujours parlé franchement, directement et librement. Chacun, en revanche, a sa façon de parler. Moi, la mienne, moi, je n'aime pas trop prendre parti. Mais en revanche, j'aime bien poser des questions qui fâchent. Vous voyez, vous comprenez, Didier. Et quel que soit mon interlocuteur, d'ailleurs, hein, Didier, on est bien d'accord. Là, par exemple, moi, je n'aime pas trop donner mon avis, mais là, par exemple, je trouve franchement cette polémique un peu excessive. Vraiment un peu excessive. Pas vous ?
Moi, je trouve qu'évidemment, les propos de Galtier sont indécents, de mon point de vue.
Oui.
Évidemment, c'est pas la boulette de l'année. C'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas non plus, voilà. Mais ceci dit, en tant que dirigeant sportif, entraîneur, comment dire, en plus, si on contextualise les choses,
oui.
Si on regarde bien la question que le journaliste lui pose, d'abord, c'est Mbappé qui rigole en premier.
Oui, oui.
Et puis Galtier qui surenchère en donnant son point de vue.
Oui.
Donc moi, j'ai un petit peu l'impression que Galtier a été influencé par la réaction de Mbappé.
Vous avez raison, Didier.
Et j'y vois un petit peu comme une voilà c'est indécent dans le sens où il se dit bon je vais pas donner mon point de vue opposé à Mbappé stratégiquement sportivement j'y vois comme un peu comme Mbappé le chouchou qui voilà il faut pas trop non plus le contredire ça me paraît un petit peu indécent et en plus c'est pas très sportif quoi.
Je trouve votre analyse assez juste, mon cher Didier. Franchement,
voilà, c'est mon
je
point
trouve
de
assez
vue.
Juste. Je voudrais aussi préciser une chose, c'est que Christophe Galtier dit, je savais qu'on allait me poser la question. Bon, il aurait dû préparer sa réponse alors.
Me semble-t-il. C'est d'autant plus indécent.
Bon, écoutez Didier, nous allons voir ce qu'en pense Vincent. Vincent qui est dans l'Hérault. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors Vincent, qu'en pensez-vous ?
Ah ben moi je trouve que c'est de la polémique pour la polémique. Hein. On a des ministres qui et ça, c'est pas que cela, ça fait déjà longtemps. Mais qui s'indigne de tout. Dès qu'on dit une phrase, il faut qu'il y ait de l'indignation, il faut qu'il y ait de...
Mais là, avant que les ministres ne s'en mêlent, et les hommes politiques s'en sont mêlés de tous bords d'ailleurs, hein, Vincent, avant que les hommes politiques ne s'en mêlent, c'est le public qui s'en est mêlé. Hein, le public à travers les réseaux sociaux, ça a réagi tout de suite.
D'accord, bon, mais par contre, cet été, c'était la sécheresse.
Oui.
Personne n'était indigné qu'on arrose les stades, alors que les paysans ne pouvaient pas arroser leurs stades.
Oui.
Ça, c'est bizarre quand même, hein. Personne ne s'en est indigné. On fait des matchs à 21h, il y a des projecteurs que je suis sûr qu'en 2 heures de temps de match, ils consomment autant qu'un petit village en électricité. Là, personne ne s'est indigné. Et là, bon, ben, je sais pas, peut-être qu'il faut tomber galtier. Après, moi, je suis pas foutu. Hein,
Oui. Alors je voudrais préciser, je connais bien le problème. À Nîmes, nous sommes le seul club à avoir encore une pelouse naturelle en Ligue 1 ou Ligue 2. la seule équipe. On nous interdit d'arroser avant 20 heures, ce qui pose problème d'ailleurs parce que la pelouse se détériore. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la préfecture qui a décidé, donc on n'arrose pas, hein, Vincent. Vous dites que vous êtes plus choqué par la Coupe du Monde au Qatar, qui sera climatisée et avec un arrosage à outrance.
Ah ben oui, bien sûr. Mais bon, il y a quelques-uns qui en parlent aussi. Et il y a beaucoup de choses, là, on nous fait tout un clan pour cette histoire, mais regardez, on a quand même organisé les Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Ils vont venir comment, tous les athlètes, ils vont d'entier.
Oui, mais Vincent, Paris, on ne fait plus rien, alors.
Mais à écouter les ministres, il ne faut plus rien faire, le gouvernement.
Oui, non, mais les ministres, là, en l'occurrence, je sais bien que les ministres ou les hommes politiques, encore une fois, de tous bords, hein, on ne va pas distinguer. Mais là, c'est l'opinion publique qui s'est emparée du sujet. Hein. Et évidemment, les hommes politiques ont suivi. Bah, c'est un grand classique de la communication.
Moi, le sujet, je l'ai entendu par rapport à la ministre du Sport.
Oui.
Et bon, voilà, quoi.
Bon, Didier... On fait tout
un plan pour... Les jeunes sont dignes de longue. Et
Ça, c'est vrai. Et je me méfie, encore une fois, des donneurs de leçons. Merci, Vincent. Merci, Didier. Vous voulez ajouter quelque chose, mon cher Didier?
Oui, moi, je pense, M. Bourdin, que l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien s'indigner de la Coupe du Monde au Qatar, par exemple. Moi, personnellement, oui. À titre personnel, je vais la boycotter. Je n'ai pas regardé la Coupe du Monde au Qatar. Mais en même temps, on peut aussi s'indigner de certains propos qu'entraîneurs sportifs de Ligue 1, qui ont quand même une responsabilité assez importante dans le médiatiquement parlant. Donc, voilà, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien parler d'un sujet et de l'autre.
Mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, Didier. Merci dans tous les cas. Et encore une fois, Christophe Galtier savait que la question allait lui être posée. Donc, il aurait pu préparer sa réponse. C'est vrai qu'il y a un peu de condescendance, un peu de mépris dans le comportement, au-delà du bon mot, parce qu'il a voulu faire un bon mot. Encore une fois, c'est une pirouette, il est mal retombé, ça peut arriver à tout le monde. Mais il y a un peu de mépris dans le ton et le comportement, me semble-t-il. Bien, merci beaucoup Didier, qu'en pensez-vous? Allez-y, et si vous avez votre avis, hein, mais je sais que vous l'avez, vous n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300, et je vous mettrai à l'antenne. Ça passe vite, 42, à tout de suite, on va parler des éclairages publics la nuit. À tout de suite.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
10h46, 0823, 600, 600, vous êtes avec nous. Pollution lumineuse, gaspillage d'énergie. Des bâtiments sont allumés la nuit, des bureaux ou des bâtiments publics, ou des magasins qui restent allumés la nuit. Kevin témoigne ce matin sur Sud Radio. Bonjour Kevin.
Bonjour.
Merci. Vous pratiquez le parcours. Parcours, P-A-R-K-O-U-R. Hein, c'est cela, Kevin.
Exactement.
Vous éteignez les lumières des magasins la nuit.
Exactement, avec le collectif On The Spot Parcours.
Alors, expliquez-moi ce que vous faites précisément.
Alors, pour éteindre ces lumières, on atteint un interrupteur pompier qui est situé à plus de 2,50 m de haut et qui est à la base uniquement destiné pour les pompiers pour éteindre ces enseignes en cas de départ de feu. Ces interrupteurs peuvent être switchés en on le lendemain si les commerçants veulent rallumer leur enseigne. Et nous, en fait, ça nous a paru comme étant un geste citoyen d'utiliser en fait le sport au service de la bonne cause. Pour sensibiliser les gens sur les sujets de sobriété énergétique, pour que tout le monde puisse s'approprier le sujet et puis mener des actions à leur échelle, c'est-à-dire éteindre leur lumière en partant de chez eux ou en sortant du bureau. Tout le monde peut avoir un impact positif.
Bon, on va comprendre. Je redonne le numéro, je me suis trompé, paraît-il. C'est le 0826-300-300. Je ne sais pas quel numéro j'ai donné, mais enfin, c'est 0826-300-300. Kevin, on va comprendre, parce que là, vous partez la nuit dans une ville.
Oui, Paris.
Paris. Là, vous repérez les magasins qui sont allumés.
Oui.
Les vitrines, notamment.
Oui.
Hein ? Au-dessus de ces magasins, il y a, à 2,50 m, me dites-vous, un interrupteur qui permet d'éteindre cet éclairage.
Oui.
Donc vous escaladez, c'est du sport, et vous éteignez.
Exactement.
Voilà. Et le commerçant qui veut rallumer le lendemain peut rallumer.
Tout à fait. Donc, c'est un acte où on... alors, il faut savoir que nous, on a pas mal d'années d'entraînement derrière nous. Donc, on le fait avec nos capacités sportives. C'est un moyen de joindre l'utile et l'agréable.
Oui. Mais Kevin, oui. La police intervient quand elle vous voit ?
Ah oui, on a dû, à plusieurs reprises, été interpellés par la police, mais de façon assez surprenante, ils nous ont laissé faire. Parce qu'on prenait le temps de leur expliquer ce que l'on faisait, et ils voyaient qu'on dégradait rien, que l'on respectait. En fait, nous, c'est simple, on part du principe qu'on le fait pas si ça dégrade la vitrine, si ça remplace l'éclairage public, ou si c'est des choses d'utilité publique comme la police, des pharmacies, etc.
Et en vous promenant la nuit dans Paris, vous voyez beaucoup de magasins éclairés ?
Franchement, il y en avait beaucoup encore l'an dernier. Là, cette année, il y a quand même une prise de conscience. Après notre passage, on voit qu'il y a beaucoup d'enseignes qui décident de laisser leur lumière éteinte. D'autres bah, qui la rallument le lendemain. C'est majoritairement les grandes enseignes, d'ailleurs. Mais nous, on dit que voilà, notre acte, notre geste sera symbolique. On n'aura jamais à vocation d'éteindre toutes les lumières.
Oui, j'imagine.
Donc, il y a des réactions derrière les actions, ça fait du bien.
Oui, non, mais j'imagine. J'imagine que vous n'éteindrez jamais toutes les lumières. Mais tout de même, Kevin, vous avez croisé un jour ou l'autre le propriétaire d'un de ces magasins, j'imagine.
Pas vraiment, parce que nous, on opère le soir de 1h à 6h du matin, la plage où la loi indique que ces enseignes doivent être éteintes.
D'accord.
Et les commerçants ne sont pas ouverts.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Les commerçants ne sont pas ouverts à ce moment-là.
Bien. Merci Kevin pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci. Les locaux, Félix Mathieu, du ministère de la Transition écologique restent allumés la nuit.
Oui,
ça, c'est un peu surprenant. Et pourtant, la réglementation est stricte sur le sujet.
Oui, les magasins et les bureaux vides sont censés rester éteints après 1h du matin, mais cette loi, elle n'est pas forcément respectée partout. Et surtout pas donc dans la tour Sequoia. C'est la tour qui abrite les locaux du ministère de la Transition écologique à la Défense, et son intérieur reste en bonne partie éclairé toute la nuit. C'est ce qu'a révélé BFM TV. Contacté par la chaîne, le ministère de la Transition écologique met en cause une installation technique difficile à piloter. Une réunion d'ailleurs à ce sujet était même prévue hier. En tout cas, selon le ministère, les gratte-ciels doivent garder une lumière minimale pour les rondes de sécurité, pour les services incendies. Le problème ici, c'est que le détecteur de mouvement rallume apparemment la lumière pour 2 heures à chaque passage des agents de sécurité. Des travaux sont censés remédier à ce problème en octobre.
La réglementation, on en parle avec Anne-Marie Ducroux, qui est porte-parole de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Anne-Marie Ducroux, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Que dit la loi, Anne-Marie Ducroux ?
Alors, c'est une réglementation pour les bureaux, spécifiquement, puisqu'en fait, oui. C'est une règle qui est différente pour chaque source lumineuse. Et il est quand même utile de rappeler que toutes les sources lumineuses concourent à la consommation électrique et à la pollution lumineuse. Pour les éclairages intérieurs de locaux professionnels, donc comme les bureaux dont on vient de parler, la règle, c'est éteint 1 heure après la fin d'occupation des locaux au plus tard. Donc ça peut être éteint dès la fin d'activité, en réalité.
Oui.
Et pour ce qui est l'éclairage de façade, c'est-à-dire extérieur contre la façade, c'est à 1 heure du matin au plus tard. Donc voilà, pour ces deux objets, il y a 2 règles. Pour l'intérieur et pour l'extérieur, et l'éclairage intérieur visible de l'extérieur.
Est-ce que ces règles sont respectées, tout simplement, Anne-Marie Ducroux ?
Insuffisamment à nos yeux, puisqu'en fait, il est peut-être utile quand même de rappeler que d'abord, cette règle, elle n'est pas récente, elle a 10 ans d'âge.
10 ans d'âge ? Donc, la loi n'a pas évolué depuis ?
Ben, c'est pas qu'elle n'a pas évolué, c'est que le texte, vous avez raison, n'a pas changé.
Oui.
L'extinction qui était prévue, par exemple, en 2013, c'était déjà la même règle.
Oui.
Mais en revanche, ce qu'on constate, parce que nous sommes sur le terrain en de très très nombreux endroits en France, donc on le sait de sources sûres, il n'y a quasiment aucun contrôle de la part des collectivités, il n'y en a aucun de la part de l'État, parce qu'en fait, il y a 2 autorités publiques qui en sont responsables.
Oui, l'État et le maire.
Oui.
L'État et le maire peuvent. Éteindre, ou doivent éteindre. Oui, doivent éteindre.
Ils doivent éteindre pour leur propre bâtiment, mais ils ont la responsabilité de l'application du texte D'accord. pour tous les acteurs. Par exemple, D'accord. l'État doit contrôler les installations communales pour que la commune ne soit pas jugée partie. Oui. Et la commune doit suivre les éclairages de son territoire sur lequel le maire a compétence.
D'accord. On va prendre Eric, qui est à Nîmes. Bonjour Eric. Eric, vous êtes avec nous ?
Allô ? Bien.
Oui, Eric.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
À Nîmes-moi.
Oui.
Ça, voilà. ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Tiens, j'y vais samedi à Nîmes.
Ah, d'accord.
Ben oui.
Eh bien là, actuellement, je suis sur Alès, vous voyez.
Ah bon ?
Voilà.
Bon,
je travaille à Nîmes et à Alès. Voilà,
je connais aussi. Hein. Eric, oui. L'éclairage. Vous dites qu'il faut arrêter l'éclairage à 23h.
Ben, c'est un exemple. Donc, entre tout ou rien, il faut trouver le juste milieu.
Oui.
Alors, donc, effectivement, si on est un éclairage à 23h, ou alors ce qu'on peut faire aussi, c'est couper l'éclairage d'une lampe sur deux. C'est sur un boulevard, vous avez 40 éclairages, et ben, on n'en allume que 20. Voilà, donc
alors pour des raisons, certains hein. demandent à ce qu'on garde la lumière pour des raisons de sécurité aussi,
oui,
hein, Eric.
Ça c'est sûr que la sécurité ça pose un problème. Après, vous savez que dans le Gard on a beaucoup de vent.
Oui.
Et je trouverais intelligent de mettre plus d'éoliennes. Alors le problème, pour parler de l'éolienne, dès qu'on parle d'éolienne, on parle de trucs monstrueux, immenses. Oui. Pourquoi on fabriquait pas des éoliennes plus petites ?
Oui.
C'est-à-dire on en mettrait plus petite, ça ferait moins de béton, moins de voilà. Dans le Gard, on a beaucoup de vent, donc ces éoliennes pourraient pour l'électricité, pour éclairer les villes.
Bon, vous dites qu'il faut arrêter l'éclairage à 23h. Anne-Marie Ducroux, l'éclairage oui. arrêté. On peut pas arrêter partout l'éclairage à 23h. On peut pas éteindre tout.
Au minuit, hein.
Nous c'est très clair. Hein. On a une expertise sur le sujet depuis plus de 20 ans. Donc on porte ce plaidoyer de plus de oui. sobriété lumineuse et énergétique, et les deux ne sont pas toujours associés. Mais en revanche, on dit très clairement que l'ambition n'est pas de plonger la France dans le noir. La réponse qui doit être apportée, c'est d'abord de répondre aux vrais besoins des habitants, mais j'insiste sur le vrai, puisqu'en fait, pendant des décennies, on s'est mis à éclairer avec des éclairages qui ne répondent plus à des besoins vitaux de déplacement et de sécurité des gens. Donc pour l'éclairage public dont on vient de parler à l'instant, on est en réalité en France dans une situation de suréquipement et de suréclairage, et nous avons chiffré sur 11 millions de points lumineux du seul éclairage public, on a augmenté de 94% la quantité de lumière émise la nuit pour le seul éclairage public. Et comme toutes les autres sources ah oui. lumineuses, notamment privées, concourent aussi, on est sûr que ce chiffre est très sous-estimé. Donc on n'est plus dans l'épaisseur du trait, il faut donc régler quand même par une autre conception et par d'autres usages, par exemple l'extinction en milieu de nuit. Et je me permets d'ajouter que pour l'éclairage public, nous on sait précisément, puisqu'on les recense, qu'il y a plus de 12 000 communes en France qui pratiquent déjà l'extinction de l'éclairage public en milieu de nuit, c'est-à-dire de minuit à 5 heures. De
12 000 sur 36 000.
Oui, c'est beaucoup. Et ces communes témoignent très facilement qu'elles gagnent. D'abord, elles réduisent immédiatement les impacts de la pollution lumineuse. Deuxièmement, elles gagnent en consommation énergétique et elles gagnent en dépenses budgétaires, elles économisent. Et tout ce qui est gagné sur des gaspillages énergétiques peut être en fait alloué à de véritables besoins, d'autres besoins des habitants.
Merci Anne-Marie Ducroux, merci d'avoir été avec nous ce matin. Vite, allez, j'ai le temps, je le prends, tant pis. Mohamed, je suis en retard, mais c'est pas grave. Mohamed est prioritaire. Bonjour Mohamed. Vous êtes à Toulouse. Vous êtes là Mohamed ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Mohamed, vous êtes grutier.
Oui.
Alors grutier, vous le voyez, vous me dites, je le vois tous les jours dans mon boulot, au travail, oui, alors, je vois tous les jours des immeubles allumés.
Oui, oui, même là actuellement, j'ai un pont de 300 mètres de long à peu près devant moi. Et il reste allumé jusqu'à certaines heures. Là actuellement, il est allumé encore.
Oui, oui, mais c'est donc, normal, non ?
Non, c'est un pont où le métro passe. Donc du coup, il éteigne quelques jours dans la semaine. Oui. Et d'autres jours, il reste allumé.
Donc un pont, il y a un métro qui passe. Vous êtes où ? À Toulouse ?
À Toulouse, oui.
Bon, et vous voyez ce pont allumé le jour ?
Oui, le jour, il y a même certains... Bon, nous, en tant que grutiers, on voit souvent certains quartiers rester allumés jusqu'à 10 heures, certains endroits rester jusqu'à certaines heures, quoi, qu'on ne trouve pas ça normal, quoi.
Bah oui, surtout, vous êtes bien placé, vous, Mohamed. Hein.
Voilà, donc
vous voyez
de haut. Oui.
Donc, Mohamed.
Voilà quoi, oui.
Mohamed, merci d'appeler. Et de participer.
Je vous entends tous les jours à la radio, donc bon courage à vous et merci pour les émissions que vous passez. Et voilà quoi.
C'est gentil, merci Mohamed. Merci. Je sais, j'avais eu sur une autre radio précédente, j'avais eu une longue conversation avec un grutier. C'est un métier exceptionnel. Et je me souviens même d'une conversation à propos du viaduc de Millau, où ce grutier qui travaillait sur le viaduc m'expliquait que du haut de sa grue, de je ne sais combien de dizaines de mètres de haut, il arrivait à enfoncer un bouchon dans une bouteille de champagne. La précision de ces grues, bah, je sais pas comment il faisait, il m'avait raconté ça, c'était exceptionnel. Il est 10h59, vous êtes sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Avez-vous recours aux médecines alternatives ? Les médecines alternatives sont très nombreuses. Nous ouvrons le débat parce qu'il y a des médecines alternatives qui sont très efficaces et que beaucoup apprécient, que beaucoup utilisent d'ailleurs. 0826 300 300, vous nous dites si vous avez recours aux médecines alternatives, si ces médecines alternatives vous satisfont, si elles vous font du bien, on en parle. Mais attention au danger, parce qu'il y a des excès également. Nous allons aussi parler des compléments alimentaires dits naturels, vendus sur Internet et qui peuvent être dangereux, puisque l'Agence nationale de sécurité alimentaire nous alerte. Nos invités ce matin, plusieurs invités pour parler de ces sujets. Georges Fenech, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, auteur de Santé, Bien-être, Gare ou Gourou, enquête sur les dérives thérapeutiques d'aujourd'hui aux éditions du Rocher, un livre que vous avez publié en 2020, Georges Fenech. Avec nous aussi Bernard Jomier, qui est sénateur socialiste, médecin généraliste. Je conseillerais à Doctolib de se rapprocher des ordres professionnels s'ils ne l'ont pas déjà fait, de s'en tenir aux professions reconnues pour le moment. Avez-vous déclaré à propos de la petite polémique autour de Doctolib, dont nous avons vécu cet été. Puis, autre invité, Marc Le Quenven. On dit Le Quenven ?
Le Quenven, c'est parfait.
Bon, bravo. Naturopathe à Paris, micronutrition, sport, perte de poids. Premier livre paru aux éditions Marabout en octobre 2020, La cuisine naturelle. Et vous avez dénoncé, vous l'avez dit publiquement, les propos tenue par une naturopathe dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle Irène Grosjean. La naturopathie est pour vous faite quand on n'est pas malade. En
Exactement.
Fait, c'est pour prévenir la maladie, quoi.
Exactement. La naturopathie, c'est une médecine. Non, c'est pas une médecine, c'est de la prévention.
Ah, c'est pas une médecine. Vous touchez tout de suite, c'est le cœur du sujet. Hein. C'est pas une médecine.
C'est une médecine naturelle. Donc
c'est un quiproquo révélateur.
C'est un quiproquo révélateur, oui.
Ah oui, je ne doute pas de la bonne foi de notre naturopathe. Mais lui-même emploie le terme de médecine, donc...
Oui.
Ouais, est-ce qu'il s'agit d'une médecine douce ?
Est-ce qu'il s'agit de... Le Quenven, vous employez...
Voilà. Est-ce que c'est, en tous les cas, c'est une médecine de prévention qui est complémentaire.
Donc c'est une médecine pour vous. C'est une médecine.
Une médecine douce, et en tous les cas, et qui ne vient pas remplacer la médecine allopathique, celle que l'on connaît tous, et qui utilise des méthodes naturelles pour préserver la santé.
Alors, je vais donner quelques médecines alternatives, parce qu'il y en a kyrielles. Il y en a des dizaines et des dizaines. L'ostéopathie, la chiropraxie, la méditation, qui serait une médecine. Hein ? L'hypnose, la mésothérapie, l'auriculothérapie, la biologie totale, la lyophyse, l'acupuncture, l'homéopathie, la biorésonance, la phytothérapie, la réflexologie, la naturopathie, l'aromathérapie,
il y en a 400,
j'arrête là, il y en a combien ?
On en recense, on les appelle des PNACBT, c'est-à-dire des pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique, c'est le terme qu'on emploie. On en recense à peu près 400.
400 ?
Oui, mais c'est très fluctuant, hein. Il y en a qui apparaissent.
Enfin, il y en a qui sont sérieuses et d'autres qui sont moins sérieuses.
Alors, vous avez cité, il y en a qui sont extrêmement dangereuses, qui sont mortelles même.
Lesquelles ? Qu'est un exemple ?
La biologie totale, donc vous venez de citer.
C'est quoi la biologie totale ?
La biologie totale, c'est ce qu'on appelle aussi, par ailleurs, le décodage biologique, ou la médecine, la nouvelle médecine germanique qui avait été mise en place, inventée par le docteur Hammer, un Allemand, qui a été condamné en France, hein, notamment par la Cour d'appel de Chambéry, qui est décédé aujourd'hui, je crois, et qui nous explique que le cancer a une origine psychologique, c'est-à-dire c'est un choc traumatique qui donc provoque l'apparition du cancer. Bon, très bien, on peut effectivement penser que des problèmes psychologiques peuvent entraîner. Mais lui, sa méthode, c'est de dire, mais puisque c'est d'origine psychologique, nous allons soigner, guérir, faire disparaître le cancer par une méthode psychothérapeutique, en quelque sorte.
Oui.
Nous allons décoder votre cerveau, nous allons identifier le choc et nous allons recoder. Et vous allez voir que le cancer va disparaître. Sauf que quand ça s'adresse à des personnes, j'ai souvenir de jeunes femmes atteintes de cancer du sein, par exemple, qui se lancent là-dedans et qui arrêtent, parce qu'on leur demande aussi d'arrêter leur traitement en chimiothérapie, etc.,
oui.
et qui se coupent du soin conventionnel, ça se termine de manière dramatique. Ça, alors, la biologie totale, c'est l'une des méthodes les plus dangereuses que nous connaissons.
Oui, mais là c'est l'excès.
Georges
Fenech.
Il y a 2000 médecins, enfin 2000 pratiquants en France, grosso modo, de cette technique du décodage biologique.
Oui, attention, n'employez pas le mot médecin. Hein.
Non, mais ils se prétendent médecins. Ils ont des blouses blanches, ils ont des stéthoscopes, blouses blanches que les médecins ne portent même plus, mais eux le portent par contre.
Oui, Bernard Jaunier, c'est difficile hein, la frontière entre médecine traditionnelle, pratique qui relève du bien-être, et puis escroquerie. C'est difficile.
Ce qui est intéressant déjà, c'est que vous voyez dans les termes qui sont utilisés, d'abord, il n'y a pas une médecine officielle. Ça n'existe pas dans notre pays. Le soin, il s'est construit au fil des siècles et certaines façons de soigner ont prouvé qu'elles étaient plus efficaces que d'autres. Parce que beaucoup de ces méthodes, elles existent depuis des siècles et des siècles. Pour prendre une qui est très importante, l'homéopathie, par exemple.
Oui.
Hahnemann, c'est 1500 à peu près, enfin, ça a 4-5 siècles. Et donc, au fil du temps, on a vu se décanter, on va dire, l'efficacité de telle ou telle méthode de soins. Et puis, chose très importante, c'est de comprendre pourquoi le débat actuellement a pris une telle intensité, une telle acuité.
Mais
au fond, qu'est-ce qu'on cherche quand on fait appel à telle ou telle façon de prendre soin de soi ? Parce que la première chose, c'est qu'il y a une limite entre le soin et ce qui relève du bien-être. Et il y a d'ailleurs, puisqu'on a un naturopathe avec nous, dans la naturopathie, un des ressorts, c'est la volonté de se sentir pris en charge de façon plus naturelle, plus proche de la nature, plus proche de ce qui est réputé sain. Et ça, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Le problème, c'est que, qu'est-ce qui se passe ? Oui, mais vous avez des naturopathes qui sont dans cette ligne-là, un point c'est tout. Mais autour de cette approche, c'est greffé tout un ensemble d'approches philosophiques, le Revue du Progrès, par exemple, tout ce qui est extérieur à la nature vue comme un danger, et donc des philosophies très conservatrices, voire réactionnaires, voire d'extrême droite, et on en vient à des rejets, on en vient à des mouvements philosophiques, des mouvements politiques qui se sont greffés. D'où tout un ensemble de dérives, enfin ce n'est pas la seule raison, ce à quoi on assiste actuellement et qui a pris particulièrement d'intensité avec la crise Covid.
Alors, vous êtes naturopathe, quelles sont les limites ? D'abord, vous avez fait des études ?
Alors justement, c'est que nous...
Approchez-vous du micro, merci. Vous avez fait des études ou pas ?
On a fait, en France, il y a 8 écoles de naturopathie qui, qui font partie de la FENA, Fédération des écoles de naturopathie, qui exigent un certain nombre d'heures pour pouvoir exercer le métier de naturopathie. C'est l'équivalent d'environ 1200 heures sur un petit peu moins de 18 mois.
C'est-à-dire qu'en moins de 18 mois, on devient naturopathe.
Ouais,
alors pour devenir médecin, il faut 8-10 ans. Quoi.
Exactement, mais nous ne sommes pas médecins.
Mais vous n'êtes pas médecin.
On est vraiment sur, c'est ce que vous disiez, du bien-être. Et on est là quand la personne... on fait vraiment de la prévention. La personne, elle est en bonne santé. Et quand la personne a un problème,
problème
un peu plus grave, je ne sais pas.
Les personnes qui viennent vous voir vous demandent quoi ?
De retrouver, en général, c'est pour retrouver de l'énergie, parce qu'ils commencent à avoir des petits problèmes digestifs. Mais si je sens que ça dépasse mon champ de compétences, je l'envoie immédiatement chez le médecin. Et d'ailleurs, ou même, ça peut être des fragilités psychologiques, parce qu'ils ne veulent pas prendre de médicaments avec le psychiatre, par exemple.
Oui.
Donc ils viennent me voir, mais si, alors effectivement, on peut complémenter, on en parlera tout à l'heure des compléments alimentaires, mais si on peut complémenter avec l'aide de certains compléments alimentaires la personne, de façon plutôt légère, hein, parce que nous, on n'a pas des doses non plus médicales.
Mais que savez-vous, quelles sont vos connaissances, vous naturopathes?
Qu'est-ce qu'on apprend? Quelles sont les techniques qu'on apprend?
Alors sont vos connaissances? Oui, que savez-vous? Qu'est-ce que vous avez appris?
On va avoir des cours sur la nutrition. On va avoir des cours sur l'aromathérapie. On a quand même entre 4 et 5 mois de cours également sur l'anatomie et la physiologie aussi, hein, sur tous les différents systèmes, le système nerveux, le système cardiovasculaire.
Bon, avec ce savoir-là, vous vous imposez des limites.
On est
bien d'accord.
En effet.
Hein, non, Georges Fenech, vous dites non. Ouais. Vous dites qu'il y a beaucoup de naturopathes qui s'imposent aucune limite.
Je respecte beaucoup et j'approuve totalement ce que vient de dire notre naturopathe ici présent. Mais c'est une exception.
Oui.
Nous sommes, je vais le dire parce que je sais que les émissions, ça passe vite. Hein. Je vais vous dire
tout
de suite.
Oui, on a une
heure
quand même. Alors allez-y.
Nous vivons aujourd'hui un véritable scandale d'État. Je pèse mes mots, hein, c'est un scandale d'État. C'est-à-dire que les pouvoirs publics ont baissé la garde. Les médecines alternatives et les charlatans ont déjà gagné la partie. Vous avez aujourd'hui, notamment, pour prendre quelques exemples, pratiquement toutes les facultés de médecine en France, dites libres, qui dispensent et qui délivrent des diplômes de kinésiologues, de naturopathes, de reiki, de tout ce que vous voulez, moyennant finance, les facultés de médecine.
Oui, mais
vous
après,
entendez bien
après
ce que je vous
des
dis.
Années...
Mais pas
des
du tout.
Non, pas
ce
du tout.
Ce sont des méthodes qui sont des unités de valeur, qui viennent se greffer sur des études de médecine, mais l'étudiant qui sort avec son diplôme et unité de valeur kinésiologue, il peut le mettre sur sa plaque. Hein.
Oui.
Faculté de médecine, et d'une, la PHP. Les hôpitaux de Paris, qui ont laissé rentrer maintenant dans les hôpitaux toutes sortes de médecines alternatives. Donc un vernis officiel. Vous avez maintenant dans les hôpitaux, dans les chambres des malades, vous avez toutes sortes, je dirais, de gens sincères, mais des charlatans aussi, et qui vont proposer des médecines alternatives, soi-disant complémentaires, mais en réalité souvent alternatives. Les écoles, ça pénètre dans les écoles, ça pénètre le ministère de la Santé. Vous entendez bien ?
Oui.
Donc, il y a un renoncement au prétexte que, c'est vrai, le soin fait partie de ses libertés fondamentales. On a le droit de se soigner, de ne pas se soigner comme on veut.
Oui.
Sauf que, quand on délivre quelque chose d'officiel, parce que moi, contrairement à ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur, je pense qu'il y a quand même une médecine officielle, celle qui est reconnue par l'Académie de médecine, celles qui sont reconnues, éprouvées scientifiquement. Après, vous pouvez contester, mais il y a quand même une médecine qui est enseignée, qui a fait ses preuves. Vous citiez l'homéopathie,
oui,
moi je ne suis pas d'accord.
L'homéopathie,
pour moi, ça n'a
tout à fait,
ça n'est pas une médecine.
Il ne faut pas la qualifier
d'ailleurs,
d'officielle.
D'ailleurs, elle n'est plus déremboursée aujourd'hui,
Il ne faut pas la qualifier d'officielle. Oui, et d'ailleurs,
je comprends
ce que
vous dites, mais il y a une médecine conventionnelle.
Parce qu'il y a un mouvement sociétal, qu'on le veuille ou non, et les politiques, vous le savez comme moi, ne font pas les mouvements de société. Ils doivent les organiser et faire en sorte qu'ils... Dans leur codification,
le mouvement sociétal, c'est d'avoir recours,
recours
à des médecines alternatives.
Exactement.
Il y a
à peu près
60% des Français,
et il y a 60% des Français qui ont recours,
et 40% de personnes atteintes du cancer.
Et c'est ce qui est important, c'est ce que je voulais dire, et j'ai voulu dire en introduction. Il y a une médecine, un soin fondé sur la science, qui a largement fait ses preuves, au point qu'il a pris, il apparaît comme la médecine officielle parce qu'il a démontré que, vous savez, ces médecines alternatives, c'est beaucoup de l'observationnel. C'est-à-dire, elles font leur légitimité sur dire, mais telle personne, on lui a apporté tel remède, tel... et ça lui a fait du bien. L'observationnel, c'est fondamental, mais ça n'est que la première marche de la preuve de l'efficacité. On doit passer de l'observationnel à des études après. Et le problème de toutes ces thérapeutiques... On va continuer sur l'exemple de l'homéopathie. Il y a eu pendant des années des tentatives pour essayer de démontrer une preuve de l'homéopathie.
Aucune
preuve n'a pu être démontrée. Ouais. Et donc, il y a une opinion publique et une société qui, cette rationalité, ce progrès, ce consensus qui s'est construit par la preuve, qui le rejette et qui est à la recherche d'autre chose.
Bien, il est déjà 11h18. Georges Fenech, vous allez répondre. Marc Le Quenven aussi. on soigne l'âme, on soigne le corps, on a recours, c'est vrai, de plus en plus souvent à ces médecines alternatives. Certaines sont très reconnues, je pense à l'acupuncture, l'homéopathie, bien sûr, l'ostéopathie, bien sûr, très reconnue, l'ithiopathie maintenant, qui est en train de se développer,
bien sûr,
l'hypnose, la sophrologie, par exemple. Nous allons parler de tout cela. Il est 11h18, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio, 0826 300 300. Je vois Olivier qui est à Beaucaire, qui a eu affaire à des magnétiseurs qui étaient de vrais pros. À tout de suite.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Nous parlons de ces médecines alternatives, c'est vraiment passionnant. J'ai d'autres exemples. Le respirianisme, c'est quoi ça?
C'est le summum de tout.
Ah oui, c'est quoi?
Ça a été inventé par une Australienne, Helen Green, qui se fait passer, qui se fait appeler Jasmuen, ça fait mieux.
Oui.
Et qui prétend se nourrir depuis de très nombreuses années de prana, c'est-à-dire d'air et de lumière, un peu comme une plante, la photosynthèse.
Elle se nourrit d'air et de lumière.
Oui, c'est-à-dire qu'elle ne se nourrit plus de nourriture terrestre.
Oui.
Voyez-vous, sauf que le problème, c'est qu'elle doit avoir 20 000 adeptes dans le monde, qu'on a eu des décès, des gens qui ont suivi son protocole des 21 jours, et on surveille ça de très très près. Alors le respiralisme, pour elle, c'est évidemment la solution de la famine dans le monde, etc., puisqu'on n'a plus besoin de se nourrir.
Oui.
Vous voyez les excès dans lesquels on peut tomber, quoi.
Oui. La méditation, qui est à la mode, là, maintenant. Hein. Oui. Tout le monde parle de méditation. La méditation, ce n'est évidemment pas une médecine, on est bien d'accord.
Mais ça a des effets relaxants.
Oui, non, mais d'accord.
On ne dit pas que c'est une médecine.
Vous avez des méditants, des grands professionnels qui finissent par, à travers de la méditation, petit à petit, mettre sous emprise la personne qui devient complètement addict et qui va se couper de sa vie familiale, professionnelle et qui va méditer en permanence. On a vu des excès comme ça. La méditation,
c'est la porte ouverte au gourou.
Pourquoi pas? Mais c'est toujours pareil. Il y a certains qui abusent et le patient, en fait, devient un adepte, quoi.
L'anthroposophie, ça, je ne sais pas ce que c'est.
Alors ça, c'est le plus influent aujourd'hui en France,
c'est
quoi, dans le monde. L'anthroposophie, peu de gens savent ce que c'est, et c'est, ça existe partout. Ça a été inventé par un certain Rudolf Steiner, au XVIIIe siècle, je crois. C'est donc toutes les écoles Steiner, par exemple. Vous savez, il y a des écoles Steiner, Waldorf Steiner.
Oui.
La ministre Nissen avait sa propre école. La ministre de la Culture avait sa propre
ancienne,
école.
Ancienne ministre Steiner. De la Culture.
Alors, l'anthroposophie, c'est très ésotérique. Hein, c'est une, ce serait long d'expliquer tout ça, mais on croit beaucoup en la vertu du gui. Par exemple, le gui soigne le cancer. Donc, on fait des injections de gui, voyez-vous. Parce que le gui a échappé à l'attraction terrestre. Oui, on est dans un monde ésotérique.
Oui,
mais l'anthroposophie, c'est aujourd'hui des banques, c'est des écoles, c'est de l'industrie, c'est de la, les vins soi-disant bio. Vous avez des grands vins
en
qui utilisent... Pardon ?
En biodynamie, pas les vins biologiques.
En biodynamique, alors les gens confondent bio et biodynamie.
Biodynamique, oui, c'est
donc,
pas pareil.
Donc, ça infiltre tous les secteurs de la société.
Georges Fenech, vous le dites, tous les trois, d'ailleurs, je l'ai entendu, vous parlez, vous avez prononcé le mot cancer, qui est la maladie la plus grave. Hein, la maladie la plus grave. Et évidemment, quand il n'y a pas de réponse thérapeutique, on va chercher autre chose.
Bien sûr, c'est humain.
Le patient, c'est humain. Le patient va chercher autre chose.
C'est humain.
D'autres solutions. C'est là où on constate les limites de la médecine traditionnelle, la médecine classique, et qu'il faut soigner autre chose aussi quand on est atteint de cancer.
Ça n'arrive pas qu'aux autres.
Mais bien sûr.
Je
comprends très bien.
Je cite souvent le cas de l'homme le plus génial, le cerveau le plus intelligent de notre époque, inventeur d'Apple, Steve Jobs, qui, atteint d'un cancer du pancréas, se fait pas l'idée qu'on puisse l'ouvrir le corps, et tombe entre les mains d'un pseudo-chirurgien californien qui lui dit « ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut ». Et il va le soigner avec du gui, avec des jus de citron, etc. Ça se métastase, sa femme, Lorraine, le prie de se faire opérer, c'est trop tard. Ouais. Et il va perdre, au moins, d'après son biographe, au moins 5 ans de vie. C'est-à-dire que Steve Jobs, l'homme le plus intelligent de notre génération, est tombé dans le piège. Vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres.
Ah, non, ça vous fait...
Mais non, mais parce que, bien sûr, parce que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Parce que, y compris, vous prenez quelqu'un qui a un cancer, on va lui appliquer un traitement qui a été construit, justement, par les données scientifiques, qui sont des données sur des études sur beaucoup de personnes, il aura le même traitement que tout le monde. parce que...
Même si les traitements sont de plus en plus individualisés aujourd'hui.
Alors, on est à l'aube, vous avez raison, c'est notre question de la médecine personnalisée. Mais on n'y est pas encore tout à fait. Et donc, cette personne, quel que soit son degré d'intelligence, elle va se dire, oui, mais mon corps, il réagit quand même d'une façon différente. Et d'ailleurs, on dit aux patients atteints du cancer, si vous vous battez, vous avez plus de chances de guérir. Donc, la volonté. Donc, il va aller chercher, de toute façon, une approche individuelle, qui correspond d'ailleurs à notre époque, au fait d'une individualisation de notre société. Et donc, personne n'échappe. Personne. Moi, je l'ai vu en travaillant en soins palliatifs, en hospitalisation à domicile, en oncologie, dans ma vie professionnelle. Personne n'échappe à cette quête-là.
Mais bien
et qui
sûr,
est la quête de notre individualité, mais de notre personne.
Évidemment.
La question, c'est comment empêcher que s'engouffrent dans cette quête des personnes qui vont proposer des méthodes qui souvent visent à prendre de l'argent et qui sont totalement farfelues et qui n'apportent au fond aucun bénéfice réel. C'est ça la vraie question.
Marc Le Quenven, dans votre cabinet, vous voyez arriver des femmes, des hommes atteints de cancer?
Très rarement. Ou alors, ça a pu arriver, mais en général...
Ils ne le disent pas.
Ils le disent. Enfin, qu'ils ont commencé une chimiothérapie ou une radiothérapie et qu'ils sont là, et moi je suis là, vraiment... pour les accompagner. Parce que voilà, quand on fait une chimiothérapie,
il y a des effets secondaires,
le foie va prendre cher, donc il y a certaines plantes qui peuvent aider. Il y a l'alimentation également qui peut aider, mais on est vraiment là en accompagnement. Donc moi, je n'ai jamais eu de personnes qui sont venues dans mon cabinet pour les soigner d'un cancer avec... certains
vous
régimes,
ne leur
par
dites
exemple.
Pas.
Et d'ailleurs, c'est vraiment dans notre code de déontologie.
Oui, mais vous ne leur dites pas, avec ma méthode, je vais améliorer.
Non, mais pour moi, alors.
Non, vous leur dites, avec ma méthode, je vais améliorer.
Pas, on n'est pas d'accord. C'est qu'en fait, pour moi, ça reste une minorité qui dit ce type de choses.
Jean Fenech, je ne le pense pas.
Je ne sais pas, je n'ai pas de chiffres précis, mais j'ai vu tellement
je pense que c'est de plus en plus légiféré, regardez les éléments qui
sont recueillis par l'ami Vilude, l'UNATFI. Moi, j'étais président à Vilude pendant 4 ans, je peux vous dire que j'en ai vu des quantités de charlatans naturopathes, qui ne remet pas en cause votre exercice à vous, qui me paraît tout à fait respecter des chartes, et vous êtes sur le registre du bien-être et non pas du soin du cancer, mais combien j'en ai vu.
Oui, puis on peut citer aussi le mouvement anti-vax, qui n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Voilà une méthode thérapeutique qui est aussi, enfin, très ancienne, qui a largement prouvé son efficacité, qui a permis à l'humanité d'éradiquer des maladies. Et on a vu se développer, à l'occasion de la pandémie de Covid, un mouvement anti-vax extrêmement...
Il y a des personnes qui viennent me voir.
Il y a des personnes qui viennent me voir
pour savoir est-ce que je dois me faire vacciner, est-ce que je ne dois pas me vacciner. Moi, je leur dis, en fait, il faut que vous en parliez à votre médecin. C'est votre médecin qui vous dira s'il faut se faire vacciner ou pas. Voilà, moi, je peux leur dire, moi, à titre perso, je suis vacciné. Je pense qu'il y a certains naturopathes qui le sont aussi, d'autres qui ne le sont pas. Mais bon, comme les médecins et comme d'autres thérapeutes.
Vous avez cité dans la courte liste tout à l'heure la mésothérapie et l'auriculothérapie. Je veux dire, on nage en pleine hypocrisie. À l'époque, en 2009, j'avais créé avec le directeur général de la santé, M. Didier Houssin, d'époque, un des prédécesseurs de Salomon, un groupe d'appui technique. Groupe d'appui technique au ministère de la Santé qui a ouvert un site et qui a fait des évaluations de ces pratiques. C'est quand même très important. Oui. Des évaluations officielles, si je puis dire, ces pratiques. Alors vous avez parmi ces évaluations l'auriculothérapie et la mésothérapie, dont le groupe d'appui technique nous dit c'est dangereux. Utiliser telle ou telle manière, ça présente des risques et des effets secondaires très dangereux. Et dans le même temps, la PHP a ouvert ses portes à l'auriculothérapie et la mésothérapie. Vous voyez, vraiment, on est en pleine hypocrisie.
Alors justement, quelles sont les limites, quelles sont les frontières? C'est très intéressant. Nous allons avoir avec nous Véronique Souissa, qui est docteur en psychologie, directrice générale de l'agence médecine complémentaire et alternative, qui sera là dans quelques instants. Des auditeurs aussi, Olivier, que je vais prendre, c'est promis, Julien, qui appelle de l'Essonne. Il est 11h31, à tout de suite.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Est-ce que vous avez recours aux médecines alternatives? On en parle. Allez, Olivier est avec nous, Julien aussi. Olivier est à Beaucaire, dans le Gard. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Oui, mais moi j'ai recours à une médecine alternative. Alors, je suis très cartésien, j'y croyais pas du tout. Et oui. Quand j'ai eu un Zona,
oui.
Mon médecin m'a dit, je peux rien pour toi. Par contre, il y a un magnétiseur qui va te l'enlever. Et le magnétiseur, il me l'a enlevé.
J'ai donc, entendu...
Je croyais pas.
Oui.
Je croyais pas trop, quoi. Mais quand oui. ma femme a eu un, ça a été pareil. Il a enlevé des verrues à mon fils, des verrues plantaires. J'ai un fils qui a été renversé par une moto. Il a été traîné sur le goudron sur 10 mètres. Il était défiguré, la peau arrachée au bras, au coude, à la jambe, à la figure.
Oui.
Et on l'a amené chez ce monsieur. Et il le touche pas, hein, en réalité. Il passe ses mains au-dessus, il fait des petites croix, des machins. Et il a été refusé à la kermesse parce qu'il était défiguré. Et là, aujourd'hui, ben, il n'a plus une trace. Il n'a qu'une trace sur la jambe parce que le magnétiseur n'est pas passé à cet endroit-là. Il n'a même pas une cicatrice. Mmh. Et moi, je n'y croyais pas. Honnêtement, mmh. je n'y crois pas parce que je dis, attends,
oui.
les gris-gris, les machins, les potions magiques, je n'y crois pas du tout.
Mais Olivier, merci pour votre témoignage. J'ai entendu de très nombreux témoignages semblables. Hein. Vous aussi. Vous aussi. Et personne n'a la réponse. Hein.
Non mais
qui a la réponse ?
Je veux dire, là, on est dans un autre domaine que les preuves scientifiques.
Oui.
On est dans un domaine, le magnétisme, vous avez des gens qui ont cette faculté de vous soulager des douleurs par la position des mains, etc. Mais tant mieux !
Oui.
Monsieur nous dit, le Zona, bon, tant mieux pour lui.
Oui.
Là, je veux dire, c'est toujours pareil, la frontière, c'est si ce magnétiseur va vous dire, arrêtez d'aller voir votre oncologue, c'est moi qui vais traiter votre cancer. Oui. Là, c'est fini. Vous tombez dans d'autres choses. Mais le magnétisme, le coupeur de...
Ça veut dire que la médecine traditionnelle...
N'a pas toutes les réponses.
N'a pas toutes les réponses. Et parfois... Parfois, il y a utilité à aller compléter...
De manière complémentaire.
Voilà, mais c'est ce que je dis, compléter.
Absolument.
Hein, compléter le traitement que vous suivez.
Mais tout à fait.
Nous avons Julien. Bonjour Julien.
Oui, bonjour.
Julien, vous êtes dans l'Essonne, hein, mon cher Julien.
Tout à fait, dans l'Essonne, dans le 91.
Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Alors, mon point de vue, c'est que je pense qu'il ne faut pas blâmer les médecines alternatives. Elles ne sont pas infaillibles. Mais la première des choses qu'il faut garder en règle, c'est le premier article du serment d'Hippocrate qui est « primum non nocere ». À partir du moment où on ne fait pas quelque chose dans le but de nuire, tout ce qu'on apporte et qui peut faire du bien à la personne, soit un plan physique ou psychologique, est très important. Parce que si on n'est pas dans l'optique de se guérir, forcément, on va avoir du mal à se soigner, on va avoir du mal à se sortir. J'ai beaucoup d'exemples à citer, mais je ne vais pas avoir le temps de tout citer là. Mais on jure toujours par la médecine conventionnelle comme étant la référence, le truc qu'il ne faut pas sortir des coups, etc. Malheureusement, la médecine traditionnelle est loin d'être exemple d'erreur et de bêtises. Par exemple, je vais citer par exemple...
Julien, je vous arrête parce que la ligne est très mauvaise. Malheureusement, ça arrive. Hein, vous savez, ça, c'est le grand classique du direct. Hein. Quand on donne la parole aux auditeurs, parfois, on a de bons téléphones, parfois de mauvais. Ça arrive. Bon, Julien, dans tous les cas, nous avons écouté, entendu l'essentiel. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est que la médecine traditionnelle, très bien, il faut peut-être qu'elle soit aussi un peu plus attentive au bien-être psychologique du patient.
Moi,
elle ne l'est pas suffisamment.
Je crois que malheureusement, dans les hôpitaux notamment,
oui.
on traite un patient avec un numéro administratif.
Et non pas oui. le temps.
Vous voyez, par manque de temps, de moyens, de formation.
De formation, oui.
Il ne faut pas bien oublier sûr. Que le malade qui vient parce qu'il a un organe à se faire soigner, c'est aussi un être humain doué de sensibilité, de crainte, oui. de souffrance, et qu'il faut le traiter, comme on dit, de manière holistique, prendre aussi... Et vu cette carence, effectivement, vous avez un grand nombre de charlatans, entre guillemets, là, qui le sont peut-être moins... Qui traite cette question-là. Voyez-vous, et donc c'est un point d'entrée de toutes ces médecines alternatives, c'est la prise en charge. Je pense que l'hôpital, la médecine conventionnelle, doit réfléchir là-dessus, effectivement.
Bien. Véronique Suissa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie et directrice générale de l'agence médecine complémentaire et alternative. C'est une agence indépendante ?
C'est une association, loi 1901, qui vise à contribuer à structurer sur le terrain ces pratiques complémentaires.
C'est-à-dire labelliser les médecines alternatives.
Non, pas labellisé, de vraiment d'être dans un travail de structuration cohérente, un peu en lien avec tout ce que vous avez dit là actuellement, c'est-à-dire qu'on ne s'y retrouve pas, que parfois à l'hôpital, comme le disait Monsieur Fenech, on retrouvait un peu tout et n'importe quoi, alors qu'il y a des pratiques qui ont une assise et qui ne sont pas intégrées alors qu'elles sont réglementées, enfin, de contribuer concrètement à structurer un petit peu mieux le champ des approches complémentaires et alternatives.
Bon, pas de concurrence entre la médecine alternative et la médecine traditionnelle.
Alors, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de méthodes type biologie totale, évidemment, à proscrire et en concurrence directe, parce que là, on est complètement dans une logique d'opposition. Si on parle d'hypnose pour la douleur insérée dans les services douleur, on est en pleine complémentarité. Donc là, encore une fois, ça dépend de quelle pratique on parle, de quel praticien on parle, de quelle formation détient le praticien, de quel usage en effet par le patient qui l'utilise, est-ce qu'il veut l'utiliser pour guérir et abandonner des traitements vitaux, est-ce qu'il veut l'utiliser pour sa qualité de vie et son mieux-être. Donc il faut essayer de ne pas tout confondre et d'essayer de faire un petit peu la part des choses dans cet amas de pratiques, comme vous l'avez très justement dit.
Oui, donc vous êtes là pour faire le tri, quoi, en quelque sorte. Hein, c'est votre rôle, Véronique Suissa.
On essaie en tout cas d'avoir des actions concrètes de terrain qui vont répondre à certaines demandes sur le terrain et d'aller vers une structuration concrète.
Mais les pouvoirs publics ne le font pas, Véronique Suissa ?
Pas assez à mon sens, et là je rejoins entièrement ce qu'a dit M. Fenech, c'est-à-dire qu'on a l'impression que rien n'a été fait. En revanche, il y a des choses qui existent. Ça a été dit, on est face à un mouvement de société, le retour à la nature, je ne reviens pas dessus, etc. On a un mouvement médical. C'est-à-dire, avant d'avoir le mouvement politique, on a un mouvement médical. Il y a une demande des patients, il y a des soignants qui se forment à ces pratiques, il y a une vraie intégration de certaines pratiques dans les centres de soins, quand on parle de d'art-thérapie, par exemple, dans les EHPAD, donc c'est pas à la dérive. Donc tout ça, ça facilite aussi l'intégration de ces pratiques. Il y a un mouvement aussi scientifique et académique, il y a des recherches qui existent. Et effectivement, il y a un mouvement, on va dire, les balbutiements d'un mouvement politico-sanitaire avec une forme de valorisation du non-médicamenteux par la HAS. Il y a de la réglementation de certaines pratiques quand même. Il y a des rapports qui existent. Et il y a des résolutions qui existent européennes, une proposition de résolution française qui a été portée par Agnès Firmin-Le Bodo en 2021, donc ça reste tout récent. Donc on voit bien qu'il y a les balbutiements, mais on n'ose pas y aller. On a un mouvement finalement qui part de la société, qui s'intègre dans la médecine, qui conduit à des recherches et qui amène tout doucement l'État essaie de s'en saisir, mais finalement pas de manière structurée. Et du coup, on a des problématiques de terrain. C'est-à-dire qu'on a un débat médical qui est complètement cristallisé entre des médecins qui dispensent et les intègrent versus des médecins qui crient au charlatanisme. On a des praticiens qui sont à des compétences inégales et parfois pour une même pratique. C'est-à-dire ceux qui sont formés en un week-end, ne les confondons pas avec ceux qui ont une formation reconnue. On a de la surinformation et de la désinformation. C'est-à-dire que la Michu, elle ne va pas aller lire les rapports de la Miviludes, malheureusement. Donc à un moment donné, on est face à cette surinformation. On a une offre de pratiques complètement illisible tant elle est prolifique et des visions qui sont très binaires. Entre on intègre tout ou alors tout est charlatanisme. On n'a pas de nuance, on est face à une vision binaire.
Bien, ben merci Véronique Suissa, vous êtes là pour essayer d'y voir plus clair, si j'ai bien compris. C'est vrai qu'il y a peu de... La réglementation est suffisante ou pas, Georges Fenech ?
Non.
J'ai l'impression que n'importe qui...
Ce groupe d'appui technique que nous avons créé, je vous le disais, en 2009... Oui. A évalué 10 pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. C'est-à-dire qu'à ce rythme-là, je vous disais qu'il y en a 400, dans un siècle, on y est encore. Oui. Il y a une très grande réticence du corps médical, des institutions, de l'INSERM, à se plonger là-dedans, voyez-vous. D'où l'agence dont on vient d'entendre la représentante, qui se dit, mais puisque l'État ne fait pas...
Faisons-le.
Nous allons faire. Oui. Moi, je ne suis pas... Je comprends la bonne volonté de ces gens-là, mais je préférerais que ce soit les pouvoirs publics plutôt que des privés ou des particuliers dont on ne sait pas s'ils peuvent être soumis à des influences. Je préférerais que ce domaine de la santé publique soit pris en charge par les pouvoirs publics.
Mais justement, et ça permettrait de résoudre le problème du remboursement. Pardon, parce qu'il y a une hypocrisie absolument incroyable dans tout ça. On admet les bienfaits de l'acupuncture, de l'homéopathie, puis de la sophrologie.
L'homéopathie, ça n'est plus remboursé.
Ah oui, mais justement.
Ça n'est plus remboursé.
Ben ça n'est plus remboursé.
Ça a été un événement, ça.
Ben ça a été un événement.
Absolument.
Alors, il faudrait savoir. Si c'est pas remboursé, c'est que c'est pas bon.
C'est pas que c'est pas bon. C'est qu'on ne démontre pas scientifiquement.
Mais est-ce qu'on démontre scientifiquement que la sophrologie, c'est utile ?
Non plus.
Bon. Est-ce qu'on démontre scientifiquement...
Mais c'est pas remboursé. Mais la sophrologie, c'est pas remboursé.
Bon, c'est pas remboursé. C'est, ça, c'est bien ce que je dis.
Chacun est libre.
Est-ce qu'on démontre scientifiquement que l'acupuncture, c'est efficace? C'est efficace, l'acupuncture. Tout le monde le dit.
L'acupuncture est enseignée maintenant, oui.
Mais est-ce que c'est remboursé, l'acupuncture? Mais c'est
pas, parce que certains médecins la pratiquent.
Oui, c'est pas une question de méthode, c'est une question de profession de santé. La réglementation actuelle, c'est qu'il y a des professions de santé qui sont reconnues par le Code de santé publique. D'ailleurs, il y a une profession qui ne l'est pas et ça pose problème, il y a beaucoup de débats actuellement. Et qui a une part maintenant qui est remboursée, ce sont les psychologues cliniciens. Depuis 2 ans, ils peuvent s'inscrire dans un dispositif de remboursement, alors que ça n'est pas une profession de santé. Et donc ça, c'est la première quand même garantie pour nos concitoyens de savoir à qui on s'adresse et ce qu'on va trouver, c'est d'avoir affaire soit à un professionnel de santé, et sinon le reste, on est dans le bien-être. Bon. Et après, il y a la question de la prise en charge par la collectivité. Je voudrais juste rappeler... à ce micro, qu'il n'y a pas si longtemps, l'assurance maladie ne prenait en charge que le curatif. J'étais encore assez jeune médecin, quand si on faisait un vaccin, on devait inscrire HAM, c'est-à-dire hors assurance maladie, sur la feuille de soins, pour pas que les patients soient remboursés. C'était la réglementation. Il faut voir d'où on vient. Donc on vient d'un système extrêmement curatif et cerné autour des professions de santé. Sauf que, beaucoup de choses ont évolué, des méthodes... qui sont des méthodes qui peuvent être pratiquées par des professionnels de santé ou des non-professionnels de santé, eh bien, dans certains cas, sont prises en charge du coup et dans d'autres, non. L'évaluation des méthodes s'est faite, se décante, certaines prouvent qu'elles ne servent à rien, d'autres qu'elles peuvent avoir une utilité en complément du traitement premier. Et donc, les Français ne comprennent plus rien.
Ben oui, ils ne comprennent plus rien. Parce
qu'ils ne savent plus à qui s'adresse.
Parce qu'il n'y a pas de bonne évaluation. Parce que plus rien n'est clair.
Et l'épisode Doctolib est venu mettre ça sur la place publique il y a quelques jours.
Mais tant mieux.
Doctolib, sur sa plateforme, Doctolib est devenu un acteur du soin, Docto, et il a inscrit quelqu'un qui a des méthodes qui sont totalement condamnables.
Si j'ai deux secondes. Oui, deux secondes. Je voudrais simplement que vous ayez à l'esprit la dimension financière, économique de ce dont nous parlons.
Ça
nous parlons de milliards, de milliards et de milliards. Vous allez Porte de Versailles, le salon chaque année de vente de produits, d'appareils très sophistiqués. Vous avez par exemple aujourd'hui la médecine quantique qui n'a rien prouvé du tout, qui se vend hors de prix. Vous avez en vente, alors que la DCGRF ne s'en occupe à peine. Oui. Ce sont des circuits économiques et financiers énormes. Et la commission sénatoriale qui avait travaillé sur ce sujet l'a montré. Vous touchez là à des intérêts économiques très importants. Vous comprenez ?
Bien. Il est 11h47. Nous allons prendre Fabienne, qui est étudiante en médecine chinoise et qui est avec nous, qui nous a appelé au 0826 300 300. 11h47, à tout de suite.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Nous allons prendre Toulouse. Fabienne qui est à Toulouse. Fabienne. Bonjour Fabienne.
Bonjour à tous vos invités.
Vous êtes étudiante en médecine chinoise.
Oui.
Et vous dites, je ne comprends pas la mauvaise réputation des médecines alternatives. C'est-à-dire... Fabienne.
Oui. Alors, je suis assez stressée, excusez-moi.
Non, ne soyez pas stressée.
J'ai écouté les débats qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Pour moi, ce n'est pas une question de prise en charge. C'est une question de formation. Oui. Ce serait d'assurer une bonne formation sur ces médecines alternatives. Oui. Alors moi... Mon parcours, c'est suite à un burn-out professionnel.
Oui.
J'ai cherché des solutions autres qu'avec mon médecin traditionnel et j'ai découvert l'acupuncture. Voilà. Et effectivement, dès la première séance, j'ai pu redormir. La seconde séance, j'ai toute la pression thoracique qui s'est libérée. Et la troisième séance, j'ai pu redire bonjour à ma direction.
Donc maintenant, vous êtes étudiante en médecine chinoise.
Ce qui m'a poussée à me poser des questions sur ma vie professionnelle. Donc j'ai quitté ma vie professionnelle, j'ai ouvert mon cabinet d'audit et d'accompagnement. Et en parallèle, je suis une école de médecine traditionnelle chinoise sur Toulouse.
Oui.
Et effectivement, je me suis rendu compte que les formations étaient Il y avait des formations différentes.
Mais bien sûr. Fabienne, merci. La formation, on en parlait. Hein. On en parlait, Georges Fenech. C'est important, la formation. S'il y avait une meilleure formation, un meilleur contrôle, si l'on allait chercher les escroqueries, vraiment, ça irait mieux, non ? On pourrait faire le tri.
Oui, bien sûr.
Parce que le bien-être est indispensable.
Bien sûr. Encore une fois, il faut avoir un regard lucide sur tout cela, rappeler que nous sommes dans un domaine de liberté, de soins, n'est-ce pas ?
Oui.
Mais
oui.
qu'il y a une responsabilité des autorités médicales et du personnel de santé dans ce pays qui ont la santé entre leurs mains, notre santé entre leurs mains, et que donc on a besoin d'informations. On a besoin de comprendre, on a besoin de savoir où on met les pieds, parce que si vous tapez sur Internet, par exemple, cancer, quelqu'un, vous avez raison de le dire, qui cherche individuellement comment, etc., vous avez les sites sur Internet qui arrivent en premier devant le site e-cancer.
Ils sont référencés officiels, parce qu'ils ont payé.
Sont référencés.
Mais
et là, on vous propose tout ce... Mais vous ne savez pas où mettez les pieds.
Mais exactement.
Donc c'est un problème d'information.
Mais alors, justement, puisque vous parlez de ça, parlons des compléments alimentaires, puisque la Haute Autorité de Santé nous alerte. Attention, il y a des compléments alimentaires qui sont extrêmement dangereux aujourd'hui. Notamment, on nous propose sur Internet des cures minceurs, par exemple, avec des produits dangereux, mais vraiment dangereux. Je regardais les témoignages dans plusieurs journaux.
C'est là où est le rôle du naturopathe, justement. Le naturopathe peut avoir un rôle là-dedans. C'est qu'effectivement, on voit sur Internet tous les compléments alimentaires possibles et inimaginables pour, par exemple, perdre du poids. C'est intéressant si c'est accompagné d'une hygiène de vie, si aussi on change son alimentation, si on fait du sport. Sinon, effectivement, le complément alimentaire ne sert strictement à rien. Et c'est vraiment
surtout,
de l'argent jeté à la poubelle.
Surtout parce qu'il faut informer nos auditeurs. Les premiers conseils à donner, c'est surtout ne pas prendre sans conseil un produit que l'on trouve sur Internet pour essayer de maigrir je ne sais pas, ou pour lutter contre des problèmes d'érection ou de... Je ne sais pas, moi.
Il faut s'informer auprès de son médecin généraliste, déjà.
Exactement.
Son médecin généraliste.
Bien sûr.
Et éventuellement, un naturopathe, mais un sérieux.
Pourquoi pas ?
Georges Fenech.
Oui, mais pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Oui, puisqu'il
mais un
a
sérieux.
Une spécialité.
Mais un sérieux.
Comme notre ami qui est sur le plateau.
Oui, oui. Mais un sérieux.
La réglementation des compléments alimentaires, elle n'est pas nationale seulement. Hein. Elle est aussi du niveau européen. On ne fait pas tout à fait ce qu'on veut en la matière. Or, il y a des compléments alimentaires. D'ailleurs, il y a un paradoxe. C'est que ceux qui souhaitent un abord beaucoup plus naturel promeuvent des compléments alimentaires qui n'ont absolument rien de naturel. Je rappelle qu'une alimentation équilibrée vous apporte absolument tout ce dont votre corps a besoin, sauf quelques exceptions. Bon. Mais il y a des compléments
alimentaires dont la teneur, par
exemple, la vitamine A, la vitamine D, en excès, posent des problèmes, sont dangereuses pour la santé. Et la réglementation actuelle fait que, malgré des dosages faibles, des personnes avec cette vogue surconsomment ces compléments alimentaires et se mettent en péril, se mettent en danger.
Et puis, dans certains compléments alimentaires, il y a des médicaments cachés. Ça existe, ça arrive. Par exemple, les comprimés aphrodisiaques. Je lisais le témoignage de quelqu'un qui avait pris ses comprimés aphrodisiaques et qui ensuite a eu des problèmes cardiaques parce qu'il y avait dedans des médicaments qui accéléraient le rythme cardiaque.
Absolument, ça serre les vaisseaux du cœur, on va dire, pour parler de façon simple.
Attention aux produits adultérés aussi. C'est quoi un produit adultéré ? Vous savez ce que c'est ?
Ah, pas du tout.
Il paraît que sur Internet, on trouve des produits adultérés. Moi non plus,
c'est de la novlangue, probablement.
Bon, oui, c'est de la novlangue. Attention, la cure minceur, le body chéri. Vous avez entendu parler de ça ? Du body chéri, non plus. Très dangereux. C'est sur Internet. J'alerte nos auditeurs. Surtout, les complications sont parfois extrêmement graves. Merci, messieurs. Gare ou gourou, santé, bien-être, Georges Fenech, aux éditions du Rocher, cuisine naturelle du naturopathe Marc Lequenven. Merci, Bernard Jeunet, d'être venu nous voir.
Merci,
vous êtes sur Sud Radio, il est déjà 11h56 après les infos. Nous nous retrouvons pour parler de tout autre chose. Les hydrocarbures ont rapporté 158 milliards d'euros à la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Un pas directement, parce que dans le budget de guerre, à peu près entre 45 et 50 milliards d'euros. Nous en parlons juste après les infos de midi, 11h57.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Bien, parlons vrai le matin entre 10h30 et midi et demi. J'ai souhaité m'arrêter sur un chiffre parce qu'il m'a frappé. Ce chiffre, je vous le donne, 158 milliards d'euros. Les hydrocarbures ont rapporté 158 milliards d'euros à la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine. Malgré les sanctions, le Kremlin bénéficie de la flambée des prix. Nous allons en parler. Vous réagissez. Laurent, qui est artisan menuisier à Montpellier, a envie de réagir. Nous aurons aussi un invité avec nous dans quelques instants. Vous allez voir, sur ces 158 milliards d'euros, 43 milliards auraient atterri directement dans les caisses de l'État russe. Il est 12h09.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Nous allons consacrer notre dernière demi-heure, 20 minutes exactement, à ce chiffre, 158 milliards d'euros. Les hydrocarbures ont rapporté 158 milliards d'euros à la Russie. Et je suis heureux d'être ici sur Sud Radio parce que j'ai la possibilité, comme ça, avec vous, de réfléchir et avec des invités, de réfléchir à des questions essentielles de géopolitique. Parce que c'est de la géopolitique, évidemment, avec la guerre en Ukraine, avec d'un côté la Russie, de l'autre l'Occident. Malgré les sanctions, Félix Mathieu, le Kremlin bénéficie de la flambée des prix.
Et oui, moins d'exportations, mais des prix beaucoup plus hauts. Résultat, les bénéfices russes ont augmenté au premier semestre par rapport aux années précédentes. Et le premier exportateur de pétrole russe, eh bien, c'est resté l'Europe ces derniers mois, malgré la montée en puissance des mesures de rétorsion. L'Europe représente...
Non, le premier importateur.
Le premier importateur. Le premier importateur, pardon. Oui, il représente plus de la moitié de ces ventes d'hydrocarbures russes, loin devant la Chine et la Turquie.
L'Europe, premier client devant la Chine et la Turquie.
Et oui, c'est cela. Oui, plus de la moitié. Et ce n'est pas tout sur ces 158 milliards d'euros. 43 milliards auraient atterri directement dans les caisses de l'État russe via les taxes, les droits de douane, selon ce rapport du CREA, un centre de recherche finlandais sur l'énergie. 43 milliards qui ont pu contribuer directement donc à l'effort de guerre contre l'Ukraine.
Bien, merci Félix. C'est un institut indépendant que je ne connais pas personnellement, mais j'ai déjà lu plusieurs rapports de cet institut qui est basé en Finlande, à Helsinki, et qui donc rapporte ce chiffre qui est un chiffre vraiment très intéressant parce qu'il pose énormément de questions, évidemment. Nous avons d'un côté l'État russe qui exporte ses richesses naturelles, ses hydrocarbures, de l'autre les acheteurs qui étaient jusque-là essentiellement des acheteurs occidentaux, qui le sont de moins en moins. La Chine a remplacé évidemment les clients occidentaux, mais la Chine, pour des raisons économiques aussi, freine ses achats. Alors il y a d'autres acheteurs, la Turquie, ce qui explique les relations d'ailleurs particulières entre la Russie et la Turquie, on comprend tout. Il y a l'Inde aussi qui est un gros acheteur d'hydrocarbures russes. Pour en parler, clairement, nous sommes avec Nicolas Meillant. Nicolas Meillant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur, membre des Éconoclastes, spécialiste des questions d'énergie. Donc ce chiffre doit être regardé de près. 158 milliards d'euros en 6 mois, en 7 mois, depuis le début de la guerre en Ukraine jusqu'au 24 août. L'Europe était le premier importateur de pétrole russe. Oui, plus maintenant. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ça va changer, ça va évoluer dans les semaines qui viennent?
En fait, ça veut dire, moi j'étais chez un de vos confrères la veille de l'invasion de l'Ukraine et je disais que tant que la seule sanction qui pourrait impacter la Russie, ce serait la baisse du prix du pétrole. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 90, juste avant, et c'est ça qui a amené l'effondrement de l'Union soviétique. Ça s'appelle le contre-choc pétrolier. Et à ce moment-là, les États-Unis s'étaient alliés avec l'Arabie saoudite pour faire baisser oui. le prix du pétrole et donc les revenus de la Russie. Là, nous, on a fait exactement l'inverse. Donc, on a fait augmenter le prix du pétrole. On a fait multiplier par 20 le prix du gaz. Et donc, effectivement, en fait, grâce à nos sanctions internationales, la Russie peut financer son effort de guerre, puisque sur les 6 derniers mois, le CERA parle de 43 milliards d'euros pour un coût total de 100 milliards d'euros.
Donc vous dites, je résume Nicolas Meillant, qu'en sanctionnant la Russie, on a fait monter le prix de ces hydrocarbures, qu'on paie beaucoup plus cher qu'avant, ce qui nourrit l'effort de guerre russe.
Exactement. Nous sommes les financeurs de la Russie en Ukraine. Mais il faut aussi quand même ajouter que de notre côté, ça n'est pas indolore, puisque rien que pour la France, sur 2022, le coût de l'augmentation du prix de l'énergie, on parle de le même ordre de grandeur. Donc, on donne 50 milliards d'euros à M. Poutine et nous, ça nous coûte rien que pour la France. Je ne parle pas de l'Europe. 50 milliards d'euros avec le bouclier tarifaire, avec ce qui se passe sur EDF et l'augmentation des tarifs de l'AREN. Donc c'est ça qui se passe.
Oui, Nicolas Meillant, c'est ce qui se passe. Mais je lis aussi dans ce rapport que nous achetons, et d'ailleurs c'est ce que prévoit l'Union européenne, de moins en moins d'hydrocarbures russes.
Alors, on en achète de moins en moins, mais si vous voulez... Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que certains pays, par exemple, vont recevoir du pétrole de Russie et de quelques autres pays, vont le mélanger et puis vont ensuite le revendre à l'Europe. Ou alors que vous avez l'Arabie Saoudite va acheter du pétrole russe, va en faire du fioul pour faire tourner ses centrales électriques, comme ça elle pourra nous revendre plus de pétrole saoudien. Donc il y a un certain nombre de mesures qui permettent de contourner ces mesures. Finalement, le problème c'est qu'elles ne sont prises que par 50 pays sur 200. L'Inde n'a jamais acheté autant de pétrole russe, 1 million de barils par jour, la Chine non plus. Et donc tant que l'Inde et la Chine continuent à acheter du pétrole russe, nos sanctions internationales, qui sont finalement internationales avec un quart des pays, eh bien, n'ont pas d'impact et au contraire financent la guerre en Russie.
Donc vous pensez qu'elles sont inutiles, Nicolas Meillant ?
Elles ne sont pas inutiles, elles sont contre-productives.
Elles sont contre-productives.
Mais, sachant que pour nous, ce qui nous attend en Europe, avec un prix de l'électricité multiplié par 10, parce qu'il est indexé sur le prix de gaz de M. Poutine, et un prix du gaz multiplié par 20, c'est l'effondrement économique de l'Europe qui nous attend, avec des collectivités locales, des entreprises, des factures qui sont multipliées par 4, 5. Je lisais hier encore, alors c'est une anecdote, mais une trentaine de piscines qui vont fermer, des stations de ski qui se demandent si elles vont pouvoir ouvrir cet hiver. Et donc, alors bien évidemment, les consommateurs, ceux qui votent, sont protégés en partie avec les tarifs réglementés, mais ce n'est pas le cas de nos entreprises, de nos collectivités. Et vraisemblablement, ça va emmener... l'Europe.
Mais Nicolas Meillant, je me fais aussi l'avocat du diable, je vais vous poser des questions. Nicolas Meillant, si nous n'avions pas pris ces sanctions, nous aurions continué à acheter des hydrocarbures russes. On est bien d'accord. À un prix moindre. On est bien d'accord.
Ce qu'il fallait faire, si nous voulons pénaliser M. Poutine, c'est faire baisser le prix du pétrole.
Et comment ?
Et c'est la bonne question. On a pu le faire en 85 parce qu'on avait des marges de manœuvre. Mais si les gouvernements s'étaient intéressés à la question, aujourd'hui, on n'a plus de marge de manœuvre. Le pic mondial de production a été passé il y a 4 ans. Il n'y a plus de marge de manœuvre en Arabie Saoudite. Il n'y en a plus nulle part. Emmanuel Macron et ses collègues européens pensaient sans doute aller voir Mohamed Ben Salman qui découpe les journalistes en morceaux pour lui demander d'augmenter sa production. Mais il ne peut pas le faire. Et c'est pareil pour les Émirats Arabes Unis. On n'a plus de marge de production. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, il fallait éviter à tout prix cette invasion. Par exemple, en tenant ses engagements, quels sont les engagements de la France? Pas d'Ukraine dans l'OTAN, Nicolas Sarkozy 2008. Accord de Minsk 2015, François Hollande, nous étions les garants. Il fallait à tout prix tenir notre parole. Et en tenant notre parole, nous aurions pu éviter.
Parce que vous pensez qu'en tenant notre parole, on aura empêché Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine?
Bien sûr, si les accords de Minsk avaient été respectés, il n'y aurait pas eu d'invasion de l'Ukraine, bien évidemment.
Mais ça, c'est ce que vous dites, Nicolas Meillant. Hein, c'est ce que vous dites. Mais personne ne le sait. Et personne n'a cette réponse.
Saura,
vous n'êtes pas dans
évidemment.
La tête de Vladimir Poutine, pardonnez-moi. Hein,
Oui, mais a priori, la raison pour laquelle envahi l'Ukraine, c'est aussi puisque ces accords n'étaient plus
comme respectés. Comme vous dites a priori.
Bien sûr, je ne suis pas dans la tête de M. Poutine.
Ah ben oui, ça c'est sûr. Et personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine. Donc tout ça, ce sont des conjonctures. Hein. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le concret. Le concret dit quoi ? Dit que nous payons les hydrocarbures plus chers, que nous finançons en partie l'effort de guerre des Russes, de M. Poutine. Simplement, Nicolas Meillant, si nous n'achetons plus, vous dites, si nous n'achetons plus d'hydrocarbures russes, nous allons acheter quand même de l'hydrocarbure russe à travers nos achats en Arabie Saoudite ou ailleurs.
Bien sûr. Bien sûr, puisque le pétrole n'a pas d'étiquette. Le pétrole n'a pas d'étiquette, donc ces sanctions seront contrôlées.
Alors, autre solution...
Au-delà de ça, le vrai problème, c'est que la Russie est le premier producteur mondial,
oui,
à égalité avec les États-Unis.
Bon, ben alors, autre solution, acheter de moins en moins de pétrole. Qu'est-ce que vous voulez y faire, hein?
Exactement. Moi, c'est ce que j'ai proposé il y a 3 ans au gouvernement.
Oui.
J'ai fait une note, j'étais conseiller scientifique à France Stratégie, et oui, j'aurais proposé d'acheter moins de pétrole russe. Mais à l'époque, ça ne m'intéressait pas, Elisabeth Borne.
Eh ben, c'est dommage. Merci Nicolas Meillant, merci. 12h23, Laurent qui est à Montpellier, qui est avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous vouliez dire, mon cher Laurent, sur la question ?
Bon, ben, j'ai écouté attentivement M. Meillant, et tout a été dit pour l'essentiel. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que les journalistes ne disent plus que la crise énergétique est due à la guerre en Ukraine. Hein. C'est l'incompétence de la gestion de la guerre en Ukraine qui crée la crise énergétique. Ce n'est pas la même chose.
Hein. Voilà. Je ne comprends pas, Laurent. C'est-à-dire
L'incompétence de la réponse des politiciens français et européens crée la crise énergétique. Ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a créé la crise énergétique.
Ah bon ?
Non.
Et pourquoi ? Sans guerre en Ukraine, non, y aurait-il une crise énergétique ?
Avec la guerre en Ukraine, sans déstabiliser le marché mondial des hydrocarbures, il n'y aurait pas eu une crise énergétique que nous subissons maintenant en Europe. Je pense que c'est évident.
Je ne comprends pas très bien votre raisonnement.
Excusez-moi si je m'exprime peut-être mal aujourd'hui.
Je reprends. Allez-y.
La déstabilisation du marché mondial des hydrocarbures a été faite par les sanctions de l'Europe et de la France.
Oui.
D'accord ? Et la déstabilisation du marché, ça veut dire que le prix a augmenté puisque la grande majorité du prix d'un hydrocarbure est due à la spéculation et non pas à la matière première qui est gratuite sous terre. La matière première, les Russes l'ont sous les pieds, les Algériens l'ont sous les pieds, elle est gratuite la matière première. Jusque-là, on comprend, c'est facile ça. En déstabilisant le marché, les spéculateurs se régalent.
Qu'il y ait une spéculation internationale sur le prix des hydrocarbures, personne n'en doute. Hein.
Mais là, elle est partie à volo, elle est partie dans tous les sens. Hein, on l'a bien vu, multiplié par 10, multiplié par 20 sur les hydrocarbures. Je pense que c'est assez clair de comprendre. Si la réponse politique n'avait pas été celle-ci, de vouloir sanctionner la Russie sur les achats d'hydrocarbures, il n'y aura pas eu de déstabilisation du marché mondial. Il faut savoir que dans le monde, il faut 100 millions de barils jour de pétrole pour fonctionner. Vous les achetez à Pierre, à Paul, ou Paul les vend à Pierre, ou ainsi de suite, il faudra toujours 100 millions de barils jour.
C'est simple. Enfin, il faudra toujours, non, si on réduit notre consommation d'hydrocarbures. Hein. On est bien d'accord, hein, Laurent. Il en faudra moins. Nos sources d'énergie, mais ça c'est un autre débat.
Voilà, il faut 30 ans, à peu près 30 ou 40 ans pour changer de concept énergétique global. Ce n'est pas en 6 mois. Donc c'est comme je voulais donner un chiffre de l'Algérie. Macron était en Algérie pour avoir une augmentation des volumes de gaz. D'accord. Mais l'Algérie actuellement ne pourra pas dans les 10 prochaines années nous donner plus que 2 ou 3 kilomètres cubes de gaz. L'Europe en consomme 400 kilomètres cubes de gaz par an, et la France 40 kilomètres cubes de gaz par an. L'Algérie, dans les 10 prochaines années, ne pourra pas augmenter sa production de 2 ou 3 kilomètres cubes supplémentaires.
Mais ça, c'est une réalité, Laurent, vous avez raison de la rappeler, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte, donc il faut diversifier ses approvisionnements, et surtout ses sources d'énergie. C'est inéluctable, Laurent.
Et attention à cette erreur magistrale. L'Allemagne est un exemple qui fonctionne aujourd'hui avec 2 systèmes de production d'électricité. D'accord ? Renouvelable.
Bien sûr.
Avec 100 gigawatts de puissance installée.
Bien plus que nous.
Renouvelable 100 gigawatts installés, pilotable 100 gigawatts. Donc ils ont 2 systèmes en parallèle pour produire de l'électricité. Et que se passe-t-il aujourd'hui ? Vous le constatez comme moi. Ils sont obligés de rattaquer sur le charbon puisqu'ils veulent moins acheter de gaz. Voilà la réalité qui est
qui existent. Quoi. Je veux dire, ce ne sont pas des ingénieurs qui font des protections. C'est un fait.
Et pour éviter, et nous passons un accord avec l'Allemagne, vous avez vu ça, Laurent, nous allons effectivement vendre éventuellement du gaz à l'Allemagne, et l'Allemagne, éventuellement, va, si nous en avons besoin, va nous vendre de l'électricité. Bien, merci, merci Laurent de nous avoir appelés. Merci, vous réagissez à tous ces sujets. Vous savez qu'ici, nous essayons de parler clairement. Grâce à vous, 0826 300 300, c'est un plaisir de vous savoir là tous les matins, 10h30, midi et demi, Parlons Vrai chez Bourdin, Sud Radio. Et nous sommes avec André Bercoff dans un instant.